Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec au studio Chloé Guilhem. Bonjour.
Salut.
Nous avons aussi Monsieur Jean-Pierre Surle.
Bonjour.
Vous êtes ici pour nous parler du sujet, un sujet sur le cinéma, évidemment, et à commencer par la présence du cinéma Le Pestel au Festival de Cannes. On en parlera sous divers aspects, hein, avec des motivations diverses.
Si tu veux, je peux commencer juste par dire qu'il y a à peu près 2000 cinémas en France et que chaque cinéma a droit d'être accrédité au Festival de Cannes à hauteur de 2 accréditations par établissement. Et donc, pour nous, c'est une habitude. En fait, on va à Cannes tous les ans et le festival se décompose, pour nous en tout cas, en 2 moments. Il y a ce qu'on appelle les rencontres AFCAE, donc organisées par l'association française des cinémas d'art et d'essai, dont Le Pestel est adhérent. Et donc Jean-Pierre, depuis ses débuts, va aux rencontres AFCAE et puis reste ou pas la durée du festival qui s'enchaîne en fait en une quinzaine de jours.
Voilà, parce que cette année, le journal du DIY a eu la gentillesse de faire un focus sur notre présence, Chloé et moi, au Festival de Cannes. Mais effectivement, c'est chaque année. Chaque année, Chloé m'accompagne depuis 2-3 ans. Mais moi, j'y vais depuis le début, mais je ne vais qu'aux rencontres AFCAE, c'est-à-dire les films à essai, qui durent 3 jours, parce que ça me suffit et il faut que je sois présent à 10 pour travailler. Et on voit des films en compétition, mais pas la grosse compétition, des films de la quinzaine des réalisateurs. Voilà. Et puis, il y a des tables rondes, il y a l'Assemblée Générale de l'AFCAE. Donc, il y a plein d'événements pendant 3 jours. Et ça permet pour nous, exploitants, de nous retrouver entre nous, de rencontrer les distributeurs. Là, j'ai eu un moment d'échange intime, entre guillemets, c'est-à-dire privé, avec le nouveau directeur du CNC, ce qui est une chance incroyable. Sinon, cette personne est inaccessible.
Gaëtan Bruel, c'est ça.
Voilà, Gaëtan Bruel, et qui est un type remarquable que je vais inviter. Je ne sais pas s'il trouvera le temps de venir à Die, parce que ce serait intéressant que cet homme-là vienne parler du CNC, d'inviter les élus, et d'ouvrir à tous, qu'est-ce que c'est que le CNC, à quoi ça sert. Voilà. En tout cas, c'est des temps très importants pour nous, exploitants.
Oui, et du coup, oui, ce que disait Jean-Pierre, c'est qu'effectivement, le Festival de Cannes, il y a plusieurs sélections. Donc la sélection officielle, c'est la sélection la plus prestigieuse, c'est celle pour laquelle il y a un jury international qui décerne notamment la Palme d'Or et une ribambelle d'autres prix. Mais après, il y a donc 4 autres sélections parallèles. Il y a Un Certain Regard, La Quinzaine des Cinéastes, Jean-Pierre et moi, il y a la CID, et il y a la Semaine de la Critique. Et en fait, l'AFCAE fait une sélection parmi les 4 sélection parallèle et commence dans la foulée le festival avec l'entièreté des sélections et du coup la sélection officielle.
Alors comment se passent justement ces séances de sélection? Vous êtes attelé à voir combien de films, hein?
Alors pour les journées AFCAE, les 3 jours, il y avait 10 films. On pouvait voir 10 films. Moi j'en ai vu 8 parce qu'il y a un moment, voilà, il n'y a aucune pause. Donc si on veut dîner, moi j'avais un dîner d'affaires, donc j'ai fait sauter une séance, en fait j'en ai fait sauter 2. Mais c'est pas très grave parce qu'on a toujours quelqu'un, Chloé n'était pas loin, donc les 2 films que je n'ai pas vus, Chloé ou mes collègues en qui j'ai totalement confiance l'ont vu et tout va bien, on échange. En tout cas c'est très très intéressant. On a commencé le dimanche 10 mai par un film d'animation qui était dans la sélection Un Certain Regard, qui s'appelle Le Corset, un film d'animation français de Louis Clichy, qui est magnifique.
Alors là, oui, il est vraiment super.
Ça a fait l'unanimité. Voilà, donc c'est
d'ailleurs, il a eu le prix des cinémas d'art et d'essai, parce que l'AFCAE a envoyé derrière un petit questionnaire où on pouvait mettre nos 3 films préférés, et le prix des exploitants, c'est Le Corset de Louis Clichy.
Voilà.
Et il était là, d'ailleurs, le réalisateur.
Il y a toujours la présence des réalisateurs dans ces moments-là, ce qui est aussi sympa. Le même soir, on avait La Gradiva de Marine Atlan, qu'on a reçue au Pestel en tant que chef opératrice. C'était son premier métier, sur L'Englouti, qui était un superbe film. Et là, c'était sa première réalisation. et un film de quasiment 2h30 pour une première réalisation. Et c'est l'histoire d'une prof d'italien qui emmène sa classe de terminale en Italie, à Pompéi, hein, s'il me semble bien. Et c'est un joli portrait de la jeunesse d'aujourd'hui, avec la prof qui est remarquable. Ouais. Voilà, donc comme on a le contact avec Marina Tlan, ben on va l'inviter. On va essayer de... Après, c'est jamais acquis, parce qu'ils sont très sollicités. Mais en tout cas, comme elle est déjà venue, quand les gens sont venus une fois, ils aiment bien revenir.
Oui, puis elle connaît des gens dans la région.
Aussi, elle a des copains-copines, a dit.
Alors la question qui me venait à vous entendre, c'est qu'est-ce qui vous permet d'être au diapason pour apprécier un film ou non? Puisque parfois, dû aux occupations, c'est Chloé qui est déléguée à aller voir ces films. Et comment s'opère justement? Est-ce que vous vous entretenez? Est-ce qu'il y a une part d'émotion aussi, qui est à la recherche d'émotions communes?
Pour apprécier un film?
Pour pouvoir le sélectionner ou l'apprécier, oui. Qu'est-ce qui...
Ben, moi, j'aime bien marcher un peu au coup de cœur.
Oui.
Il faut que le film m'emballe un peu quand même. C'est compliqué de programmer un film qu'on a trouvé moyen. Et là, on parle que de l'arrêt, on ne parle pas des blockbusters ou des films très très grand public. Les rencontres là dont on parle, ce n'est que de l'arrêt. C'est bien de suivre aussi des fois des réalisateurs. Donc Marina Tlan, on la connaît comme chef opératrice. Elle fait un premier film qui est plutôt très réussi. Eh bien, ça suffit, on y va. Le Corset, c'est un coup de cœur, le film d'animation. On y va. Voilà. Et après, c'est pas parce qu'un film est en sélection, que ce soit l'officiel ou l'autre, qu'il est forcément bon ou très bon. Il y a des films qui ont été sélectionnés qui sont moyens. Alors, il n'y a jamais de navet, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais des fois, c'est moyen. Et donc, comme nous, on a un mono-écran, une seule salle, eh bien, ma foi, contentons-nous de prendre que les meilleurs. Voilà. Mais c'est subjectif, quand même.
Et si ta question, c'était comment on fait pour enchaîner 3-4 films dans la journée, eh bien, en fait... On a quand même des petites pauses entre chaque film. L'idée, c'est effectivement de se nettoyer un peu les yeux et en tout cas de redescendre de nos émotions si on en a eu des très vives pendant un film pour pouvoir enchaîner avec un autre film. Après, je pense que c'est aussi malheureusement comme ça qu'on passe à côté de certains films parce qu'on les voit dans un flow discontinu. Donc bon, c'est un exercice quoi. Mais après, plus on le fait, plus on apprend aussi à voir le film sur des critères spécifiques. Est-ce qu'il est original? Est-ce qu'on accroche à l'histoire? Est-ce que c'est un coup de cœur? Dans le sens, est-ce qu'on est complètement emballé et qu'on pense à rien d'autre qu'au film parce qu'on est dedans? Ou est-ce qu'au contraire, on se questionne et on se dit, oh, pff, en fait, on soupire et on se dit, c'est raté. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais...
Après, on a, par rapport à ça, on a un peu d'entraînement quand même.
Non, mais c'était par rapport... quelle est la chose qui fasse commun à l'appréciation d'un film?
Ah oui, il y a plein de fois, on n'est pas d'accord avec Jean-Pierre.
D'accord.
Ça arrive souvent
Vous pouvez y avoir des contradictions.
De toute façon, il y a une part subjective dans la réception des œuvres, ça c'est sûr. Il y a effectivement les conditions dans lesquelles on découvre les films, mais il y a aussi tout simplement notre subjectivité. Et il y a des choses auxquelles Jean-Pierre est sensible et pas moi, et inversement. Et c'est tout à fait normal qu'on ait des avis divergents. Enfin, comme dans n'importe quelle situation, n'importe quel rapport à l'art, j'ai envie de dire, et à la culture.
Alors, il y a cet aspect donc, de directeur de cinéma, avec deux délégations d'un cinéma d'ARS parmi les 2000. Donc, de venir au festival pour opérer un choix, forcément, ou alors aussi c'est pour prendre des contacts avec des distributeurs pour préparer la programmation à venir?
C'est les deux.
Oui.
En fait, on ne distingue pas trop. C'est un peu un point d'orgue. Le Festival de Cannes, c'est un peu... le plus important des rendez-vous professionnels de l'année, parce qu'il rassemble vraiment quasiment l'entièreté de la profession, du producteur à l'exploitant, en passant par les distributeurs, etc. Et donc, c'est un peu inratable. Après, bon, il faut pouvoir libérer du temps dans un quotidien qui est bien chargé, mais voilà.
La grande compétition, le Festival du Cannes, c'est le plus grand festival de cinéma au monde. Voilà, après, il y aura Berlin, Venise... Mais on voit bien le jury international, c'est-à-dire que Cannes, ben Cannes c'est Cannes, ça fait 79 ans que ça dure, je crois que c'était la 79e édition, donc c'est pas rien, voilà, donc les gens à la télé ne retiennent que le tapis rouge parce que ça, faut que, des fois il faut que ça brille, mais en fait les plus grands films du monde sont présents ici, et c'est pas rien, et là le palmarès est remarquable.
Je inviterais à ce qu'on parle plus du cinéma d'art ici. Et dans ce cas-là, quel est le marché de la distribution du cinéma d'art essai ? Est-ce qu'il il se maintient ? Est-ce qu'il y a une activité florissante ?
Alors, ce n'est pas facile tous les jours, comme dirait l'autre, parce que chaque année, vous voyez, on a fait l'Assemblée Générale de l'AFCAE, justement, l'Association Française Cinéma d'Art Essai. Chaque année, on nous annonce qu'il y a un, deux, voire trois distributeurs qui ont mis la clé sous la porte. Voilà, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, un distributeur, il met de l'argent en avance au moment de la production, ce qu'il ne faisait pas il y a 20 ans, ou peu. Il prend des risques, beaucoup de risques. Adi, on ne s'en rend pas compte, mais une campagne publicitaire à Paris, dans le métro, les 4 mètres par 3, ça coûte énormément d'argent. Si le film ne marche pas, le distributeur perd de l'argent. Il peut en perdre une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, c'est fragile. Donc, c'est une économie fragile.
Encore plus que celle des salles de cinéma, en fait. Parce que nous, on est en bout de chaîne, quoi. On prend des risques, mais c'est pas les mêmes.
Donc moi, c'est très souvent que je remercie les distributeurs pour ce qu'ils font. Parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a accès à des films. Nous, effectivement, comme dit Chloé, on est le dernier maillon de la chaîne. Ça commence par la production, distribution, exploitation.
Comment se passe cette prise de contact avec un distributeur ? Est-ce que ce sont des gens tout aussi passionnés de cinéma et qui savent parler de leurs films et qui tentent de
vous
charmer ?
Ils sont forcément passionnés. On est en contact avec eux toute l'année.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est aussi dépendant de eux que eux de nous. C'est-à-dire que c'est deux professions totalement interdépendantes et du coup en lien quasi quotidien. Nous, on programme toutes les 4 semaines, mais il y a des cinémas qui changent leur programmation chaque semaine et qui donc sont en lien permanent avec les distributeurs pour négocier le nombre de séances, savoir quels films ils sortent, quels films ils rentrent dans leur grille. Et c'est une profession où, effectivement, il y a des risques importants qui sont pris, mais où ils ne peuvent pas ne pas être passionnés et ne pas défendre leurs films parce qu'ils veulent qu'ils soient vus, en fait, tout simplement. Et nous aussi, notre seul objectif, c'est que les gens découvrent les films dans notre salle, qui est l'écran le plus adéquat. Et en tout cas, les cinéastes font des films pour la salle de cinéma, pour qu'ils soient découverts dans les meilleures conditions possibles, pas sur un écran de téléphone.
Donc, on les a au téléphone toute l'année, puisqu'on programme toute l'année. Mais pour ces gros rendez-vous, il y a aussi celui de Charlieu au mois d'août, ça permet de les voir physiquement, ces gens, ces interlocuteurs qu'on a au téléphone. Et ça change tout. Ah, c'est toi Jean-Pierre, ah, c'est toi Louise, ah, c'est toi. Et hop, du coup, le coup de fil suivant, on a un visage qui apparaît et c'est beaucoup plus facile.
L'interpersonnel compte beaucoup aussi. Voilà. Ouais.
Mais en tout cas, ce sont que des gens passionnés. Voilà. Là, on parle toujours que de l'art essai. Donc, on n'a pas de contraintes, nous, en tant qu'exploitants. Le Pestel est très identifié, très apprécié par ses distributeurs. Donc, c'est remarquable, quoi. Enfin, moi, c'est que du bonheur.
L'AFCAE, donc, cette Association Française des Cinémas d'Art et Essais, est une structure qui existe depuis combien d'années ?
On a fêté les 70 ans de l'association. Et en fait, aujourd'hui, elle regroupe autour de 1250 salles. Il y a un conseil d'administration de 21 personnes que je viens de rejoindre cette année. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette association, c'est que son travail se décompose vraiment sur deux volets. Il y a un volet action culturelle directement au profit des salles membres adhérentes. Et il y a un volet plaidoyer lobbying pour faire connaître le travail des cinémas d'art et d'essai, pour tisser des partenariats forts avec les autres membres de la profession. Et donc toute cette partie représentation est aussi hyper importante pour que nos salles vivent, quoi. Et donc l'AFCAE participe à la défense de nos intérêts économiques, politiques, etc. Et donc, vu la période, ça va être important.
Donc moi, personnellement, je suis très fier que Chloé, mon employée, ait rejoint le conseil d'administration de l'AFCAE. ce qui est assez rare pour une employée, faut le souligner. Après, elle vous parlera de sa position. Elle a été jurée dans un jury à Cannes, c'est pas rien. En tout cas, c'est très précieux, l'AFCAE. Donc, on a fêté 70 ans l'année dernière, ça se poursuit aujourd'hui, encore en fait sur 2 ans. Et puis, il y a des groupes au sein de l'AFCAE pour les soutiens. Donc, il y a un groupe inédit, c'est les groupes, les films qui viennent de sortir. Il y a un groupe 15-25 ans, il y a un groupe jeune public et un groupe film de répertoire. Et moi, je suis membre du groupe film de répertoire. C'est-à-dire qu'on se voit une fois par mois à Paris pour des sessions. Et on a des rencontres nationales de films de répertoire. Et tout ça fait que ça fait vivre, ça crée de l'émulation, de l'engouement. Et c'est hyper précieux, cette association.
Et Chloé, comment se déroule donc une journée du jury du prix des cinémas ?
Eh ben, donc comme on était jury, on avait accès à des tickets papier. Donc ils nous les ont tous donnés en début de festival. Et sur le ticket, il y a marqué heure du début du film et heure d'arrivée. Et en fait, il y a 3 endroits où on peut être placé dans la salle où sont projetés les films de la compétition. Il y a soit l'orchestre, donc les meilleures places, la corbeille et le balcon. Et donc, on avait des tickets pour l'un de ces 3 emplacements. Et en fait, tous les jours, on arrivait très en avance pour être bien placé. On montrait notre billet et on montait ces fameuses marches tous les jours. C'est juste que y a des personnes qui sont plus ou moins mises en valeur sur le tapis. En tout cas, après, on découvrait les œuvres. Parfois, on se retrouvait juste après pour se dire quelques mots. Puis, on enchaînait avec une autre séance. Parfois, on allait voir des séances autres que la compétition officielle. Moi, j'ai vu, par exemple, 2 films de la sélection Acide, qui est une sélection vraiment formidable, qui déniche aussi des œuvres hors du commun. En tout cas, on se retrouvait parfois donc pour manger, pour les délibérations, donc 3 fois pendant le festival. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque film, en tout cas en sélection officielle, fait l'objet d'une grande fête. Donc, il nous est arrivé d'aller à la fête, justement, pour le film Le Corset, dont Jean-Pierre parlait tout à l'heure, qui est formidable. Pareil, chaque organisation va organiser, regroupement, que ce soit l'AFCAE, que ce soit l'Acide, que ce soit les distributeurs, etc., va organiser des temps informels, soit festifs, soit juste des apéros, soit des repas. Et donc, on a des journées assez longues. Il y a eu un film qu'on a vu dès 8h30 le lundi, donc le matin. On en avait un autre l'après-midi, un autre le soir. Et derrière, une soirée où on voulait passer pour voir les collègues. En fait, c'est ça aussi l'intérêt de Cannes dont on parlait tout à l'heure. Hein, c'est qu'à la fois, on voit les films, on les découvre pour savoir si on les prend ou pas au Pestel. Mais à la fois, on a la possibilité d'échanger avec nos pairs. Et ça, c'est inestimable derrière pour le reste du travail qu'on fait à l'année. Donc... voilà, en plus, en tant que du coup maintenant administratrice de l'AFCAE, c'est important pour moi d'accéder à ces moments-là et de faire remonter derrière à l'association les informations glanées sur le terrain.
Sur les documents que j'ai pu voir, vous êtes donc aligné hein, pour les photos au niveau du tapis rouge. Est-ce que c'est un rite, en quelque sorte, quotidien de monter ces marches ?
Alors, heureusement, non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, quand on entre dans la salle, il y a beaucoup de contrôles de sécurité. On est, en fait, c'est une jauge de plus de 2000 places. Donc, on est dans un flot, dans une queue infinie de personnes qui montent ces marches pour aller voir le film. Mais il est arrivé une fois pendant le festival, suite à des négociations, à mon avis, âpres, que le jury de l'AFCAE soit évoqué officiellement sur le tapis. Et ça, c'est arrivé qu'une fois, et c'était vraiment pour faire découvrir au monde l'existence des jurys, mais aussi lui donner une légitimité. Et comme c'est un jury qui existe aussi grâce à l'équipe du Festival de Cannes, c'est quelque chose qui a pu être organisé. Et donc, cette fois-ci, on était tous les cinq, nos noms ont été dits, le pastel de Die a été évoqué. Donc, c'était un moment assez hors du commun. Après, c'est le quotidien de tout un tas de spectateurs et spectatrices quand ils montent dans la salle, quoi. C'est juste que là, nous, on était filmés et qu'on a reçu plein de messages derrière en nous disant « Ah, je t'ai vu !» C'était marrant. Mais voilà.
Le cinéma de répertoire, peut-on préciser ce qu'il signifie ?
En fait, c'est les vieux films.
C'est plus de 20 ans, officiellement.
Voilà, c'est plus de 20 ans. Moi, j'avais mis tout de suite en place un ciné-club mensuel. En fait, c'est les films qui apparaissent dans le ciné-club. Donc, chaque mois, des distributeurs ont pris des risques aussi à restaurer un vieux film et nous le proposent. Et en fait, on apporte un soutien ou pas. S'il n'est pas soutenu, ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est toujours pareil, hein. Parce qu'on ne peut pas soutenir à 100%. Et après, donc c'est un focus sur ces films-là. Et l'exploitant, qui n'a pas le temps de tout voir, il reçoit la brochure de l'AFCAE. Et puis il dit, ah ben tiens, ces films-là, dans telle catégorie, hein, jeune public 15-25, a été soutenu. Il y a un petit mot de l'exploitant. Et ça donne envie. Et puis, de temps en temps, il y a 4 pages qui est imprimé par l'AFCAE. Et l'exploitant a accès à ça. Donc le répertoire, ce sont les vieux films. Moi, c'est un peu ma passion, mon dada. Et la chance qu'on a, et ça c'est quand on fait venir des intervenants, des grands grands spécialistes qu'on voit d'ailleurs par exemple Joël Chaperon, quoi, je fais venir très régulièrement pour les cinémas d'Europe de l'Est, était sur scène pour la remise de prix d'un réalisateur russe puisqu'il a fait la traduction. Voilà. Et ces gens-là, quand ils sont face au public d'Iwa, leur dit mais vous vous rendez compte la chance que vous avez. Vous êtes à 10 et à 5000 habitants. Vous êtes en train de voir un film de Satyajit Ray, un réalisateur indien. Ce film est restauré. Mais si j'appelle l'Inde pour leur dire que je suis à 10 et que vous êtes 60 dans la salle, ils ne vont même pas le croire. Donc en fait, je ne sais pas si les... Tout ça, c'est une exception. La France est une exception mondiale de par l'existence du CNC et de l'AFCAE. C'est-à-dire que la France est le pays le plus cinéphile au monde.
Et qui a le plus d'écrans par habitant.
Je reviens un peu sur la constitution de l'AFCAE. Quelle est sa fonction propre dans son organisation ? Est-ce qu'elle est aussi un avis consultatif pour les producteurs de cinéma, pour savoir s'il y a des sujets à aborder, par exemple ? Je ne sais pas comment...
Non, je pense que c'est pas...
Il y a une totale indépendance, peut-être.
Je t'en dis quoi, toi ?
Non, l'AFCAE, elle arrive après. Ouais. Elle a rien à voir avec la production. Là, c'est le CNC qui a son mot à dire, parce que le CNC donne de l'argent. L'AFCAE, elle est là pour aider à la diffusion de la RSC.
C'est en quelque sorte le libraire de l'édition. Ouais.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des liens, il y a beaucoup de commissions, notamment au CNC, qui étudient des dossiers qui sont interdisciplinaires, dans le sens où ça va des producteurs aux exploitants, en passant par tous les autres. Et je peux parler notamment il y a un cortège de 50 personnes, avec aussi des cinéastes, des personnes qui viennent de tous les métiers de l'audiovisuel, qui va ou pas recommander le film en tant que film à réessayer. Et donc, ils ont une plateforme, ils visionnent des dizaines de films par mois et ils statuent sur est-ce que ce film a une dimension innovante, originale, et ce qui constitue la définition de la réessayer, même si c'est assez flou, ça regroupe un petit peu toutes ces composantes, quoi. D'où vient le film, comment il a été produit, son budget, etc., etc.
Est-ce qu'il y a quand même des bases évidentes de classifier un film art et essai par rapport à une production commerciale ?
Alors voilà, c'est l'idée de film d'auteur. Il faut qu'il y ait un côté création, créativité important, un travail sur l'image, une vraie écriture. Ce qu'on ne trouve pas sur une comédie de base ou un blockbuster, c'est pas le même souci. Là, il y a un vrai souci d'auteur, un travail artistique qui est valorisé.
Ouais, c'est une bonne définition. Et c'est une prise de risque aussi, c'est l'expression d'une subjectivité, un geste artistique.
Et par exemple, quand on remplit chaque année notre dossier pour la subvention du CNC, apparaît le terme « film fragile ». Donc il y a des films à RSF fragiles, c'est-à-dire qu'il y a très peu de copies, ils ont peu de visibilité. Eh bien, le Pestel va programmer ces films fragiles et du coup, ce travail, cette prise de risque de notre part est valorisée par le CNC. Donc on est récompensé pour ça.
Aujourd'hui, ce sont plutôt des supports numériques dans lesquels sont distribués ces films.
Oui.
Il y a une viabilité aussi du matériau dans la durée pour de conservation. Ou alors, pareil que les bobines, à un moment donné, ces documents sont détruits, hein, puisqu'il y a des droits dessus.
Alors, bon, nous, c'est très éphémère. Hein, le film arrive sur disque dur ou directement via les internets. Donc la longévité, c'est pas vraiment notre problème. Les copies 35, elles étaient stockées. Ça n'existe quasiment plus. En tout cas, nous, pour salle, il n'y a pas de copie film. Alors après, c'est le souci des distributeurs. Comment ils vont stocker ça en fait, comme n'importe qui à la maison, il faut faire des copies, il y a des mises à jour, et puis... Dans 20 ans, je ne sais pas, qu'est-ce qui va arriver.
Il me semble qu'il y a des cinéastes qui souhaitent que leur film existe aussi en 35 mm pour justement avoir une copie physique qui ne dépende pas de l'informatique. Mais je n'ai pas vérifié cette info.
Ouais. Mais qu'il faudra aussi conserver. Ouais.
L'AFCAE se retrouve au Festival de Cannes, hein, principalement. Et est-ce que ça leur permet aussi de voir un peu le climat actuel des cinémas d'art ici en France?
Bah oui, vu que c'est une association dont tous les adhérents sont des cinémas d'art et d'essai. Et donc, de fait...
Il y a un constat par rapport à l'exploitation
Non, mais ça va plutôt bien. Alors après, ouais. La fréquentation, elle est un peu en dessous de l'année dernière. Mais l'année dernière, quand on fait des années exceptionnelles, forcément, l'année suivante, elle est plus calme. Là, le très beau temps est arrivé avec un mois d'avance. Donc la baisse de fréquentation est arrivée avec un mois d'avance aussi, il n'y a pas de mystère. En tout cas, une ville comme Die, où dès qu'il fait beau, les gens sont dehors en terrasse ou à la rivière, eh ben, on sait que la fréquentation plonge, sans jeu de mots, tout l'été, et puis ils reviendront à la rentrée et tout va bien. En fait, c'est vraiment du 1er janvier au 31 décembre, il faut aller au 31 décembre pour avoir le bilan de l'année. Donc on n'est pas très inquiet.
Je ne parlais pas forcément pour spécifiquement le Pestel, hein, mais oui.
C'est révélateur.
Oui.
C'est-à-dire que nos collègues de la France entière disent à peu près la même chose. Là, j'avais un distributeur ce matin au téléphone, un gros. Hein, alors, de temps en temps, on a un gros, c'était Disney. Et je lui pose des questions sur tel film et je lui dis ça va. Il me dit on est victime du beau temps.
Oui.
Même à Paris.
Moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que notre profession d'exploitant, elle est divisée en trois branches. On parle de la petite, de la moyenne et de la grande exploitation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le Covid, la petite et la moyenne exploitation s'en sortent finalement un peu mieux que la grande exploitation qui regroupe du coup les multiplex et les circuits, qui eux sont loin d'avoir retrouvé leur fréquentation d'avant Covid. Et on a, comme disait Jean-Pierre, un parc incroyable de salles en France, mais l'industrie, elle est un peu calibrée pour 200 millions d'entrées. Et dès qu'on baisse ce chiffre-là, et ben, il y a plus de tensions entre les différents acteurs, il y a des crispations et du coup, il y a tout un travail qui doit être fait au niveau de la médiation entre les distributeurs et les exploitants pour que ça soit plus fluide. Mais dès qu'on fait moins de 200 000 entrées, ce qui a été le cas ces 4-5 dernières années, ça crispe, quoi. Ça crispe.
Chloé, vous avez cette fonction de médiatrice et projectionniste hein, au cinéma La Pestel. En quoi consiste cette fonction de médiatrice? C'est celle avec le public ou avec le réseau de distribution?
Alors, moi, ce que je fais principalement, c'est que je m'occupe de la communication numérique du cinéma. Et donc ça, c'est une forme de médiation. Je m'occupe aussi de certaines séances scolaires, c'est-à-dire que j'interviens en classe pour parler des films. C'est assez divers ce que je suis amenée à faire.
Jean-Pierre, je vous laisse repartir hein, pour d'autres occupations, c'est ça ? Le CNC, il y a aussi ces bruits de casserole hein, dans les médias par rapport à la destination du CNC. Si un parti arriverait au pouvoir l'année suivante, est-ce que cela éveille de grosses inquiétudes ?
Alors, c'est très intéressant d'aborder ce sujet parce que lors de l'Assemblée générale de l'AFCAE, il y a eu un mot d'introduction qui a été fait par justement le président du CNC. Et c'est quelqu'un qui aime profondément le cinéma, donc on a beaucoup de chance de l'avoir. Et en fait, il se veut assez rassurant sur l'avenir du CNC. Après, une des thématiques qui a agité beaucoup le Festival de Cannes, ça a été aussi cette pétition signée maintenant par des milliers de personnes travaillant dans l'industrie audiovisuelle qui s'inquiètent de la mainmise de l'extrême droite, en tout cas de Vincent Bolloré sur Canal+, qui est un des principaux financeurs du cinéma français. Et donc ça a été au cœur aussi de nos discussions parce que quand on voit la manière dont Bolloré a bouleversé, que ce soit le JDD, donc le Journal du Dimanche, les éditions Grasset, Europe 1, etc., CNews. En fait, c'est ça qui inquiète beaucoup la profession, c'est à quelle sauce on va être mangé, est-ce qu'à un moment, il va y avoir aussi une reprise en main de l'audiovisuel et comme on sait que Bolloré, il le dit très clairement, hein, mène cette bataille culturelle et civilisationnelle en faveur de l'extrême droite qu'il souhaite clairement soutenir en 2027, forcément, il y a des réactions en face. Donc, il y a eu cette pétition. Donc, il y a eu la réaction de Maxime Saadé qui a dit on travaillera plus avec ces gens-là, ce qui est non seulement illégal, mais complètement délirant, parce qu'il y a beaucoup trop de signataires maintenant. Donc, en fait, c'est aussi ça qui m'intéresse dans le fait que je rejoigne le conseil d'administration de l'AFCAE, c'est on va suivre de très près en fait cette actualité. On va constituer aussi des lignes directrices en termes de politique culturelle qu'on va soumettre aux candidats-candidates. Enfin, voilà, on va faire un travail de plaidoyer, en fait, pour, une fois de plus, faire connaître notre activité et la défendre. Et en fait, le CNC, effectivement, a été au cœur des discussions parlementaires parce qu'il y a eu trois propositions de loi émanant du Rassemblement national pour tout simplement dissoudre ou supprimer le CNC, ce qui serait la pire chose qui puisse se passer pour le cinéma en France.
D'ailleurs, on peut peut-être parler de son financement du CNC. De quel fonds est-il soutenu ? Et quelle est la part de l'État, s'il y en a une, puisqu'il y a un discours dans l'extrême droite qui laisse penser que c'est l'État qui subventionne la CNC.
Eh bien, c'est faux.
Puissiez le préciser.
Oui, bien sûr, c'est une aberration. En fait, c'est des personnes qui tiennent des propos sans connaître les dossiers. Le CNC s'autofinance largement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous venez au cinéma, il y a 10% du ticket qui est reversé dans une caisse commune, ce qu'on appelle la TSA, la taxe sur l'audiovisuel, et cette taxe permet à la fois au cinéma d'être entretenu, parce qu'il y a des investissements lourds à faire parfois, et nous, on a besoin de fonds pour les faire. Et par ailleurs, c'est un fonds qui va alimenter les caisses du CNC qui va permettre la production de films. Et donc, c'est faux de penser que l'argent public finance des films. Si les régions participent au financement, c'est parce qu'il y a des retombées absolument énorme pour les territoires lorsqu'un tournage a lieu quelque part. Donc en fait, une fois de plus, là, c'est une vérité à s'aîner parce qu'en fait, il y a beaucoup de fake news qui circulent émanant de l'extrême droite. Mais une fois de plus, on est dans une guerre culturelle, dans une bataille idéologique et on sait qu'en face, ils sont très clairs sur leurs intentions. Donc il faut que le CNC, l'AFCAE, tout un tas d'autres organisations syndicales ou associatives répètent ce que je viens de dire et expliquent que non, les films ne sont pas produits grâce à l'impôt des Français. C'est totalement faux. Donc, On va répéter ce message jusqu'à ce qu'il soit entendu et compris.
On aborde le jury des prix des cinémas art et essai. Donc, Jean-Pierre nous en a parlé en début d'émission. Il y avait un jury de 5 personnes, c'est ça ?
Oui, en fait, tous les ans, on parlait du prix des exploitants qui est remis à l'un des films visionnés pendant les rencontres AFCAE. Mais après, il y a un jury un peu particulier aussi, qui est composé de 5 membres adhérents à l'association et qui, lui, reste toute la durée du festival et visionne tous les films de la compétition officielle. Moi, il s'avère que j'avais échangé avec les membres du jury de l'an passé et que j'avais juste dit si vous cherchez pour l'an prochain, moi, ça me plairait. Et en fait, ils m'ont dit que je pouvais, que c'était bon pour moi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de rejoindre ce jury. C'était des personnalités très différentes et complémentaires. On voyait tous les films, donc 2 à 3 films par jour. Et on avait 3 séances de délibération. Donc tous les 5 plus le délégué général de l'AFCAE. Et en fait, l'idée, c'était de débriefer tous les films qu'on voyait et de partager justement nos avis sur chacun d'entre eux. Et nous avons remis un prix unique à un film qui nous a vraiment semblé sortir du lot. C'est le film de Emmanuel Mar qui s'appelle Notre Salut, qu'on passera évidemment au Pestel parce que c'est un film extraordinaire qu'on veut soutenir au sein de tout le réseau ARSC. Sur les 22 films de la compétition, il nous a semblé être vraiment le plus riche, le plus intéressant et le plus même artistiquement impressionnant, quoi. Donc à la fin du festival, on a accueilli donc les distributeurs du film et aussi le réalisateur et son comédien principal, donc qui est Swan Harlow, que vous avez peut-être déjà rencontré au Pestel parce qu'il est déjà venu. Et on a décerné donc ce prix en parallèle du palmarès officiel qui du coup est décerné par le jury international officiel de Cannes, quoi. Voilà. Donc, super expérience. J'étais vraiment ravie de voir tous ces films-là de rencontrer des collègues qui travaillent dans d'autres contextes et avec lesquels parler cinéma, c'était absolument génial, quoi. Et Notre Salut, si je peux en dire quelques mots, c'est un film qui a été écrit à partir de la correspondance, donc les lettres échangé entre les 2 arrière-grands-parents du réalisateur. Donc c'est un matériau brut absolument d'une richesse incroyable, d'autant plus que dans le film, en voix off, on entend, sont lues ces lettres. Et en fait, il s'avère que le moment pendant lequel ces lettres sont écrites, c'est les années 40 et l'installation du régime de Vichy. Et l'arrière-grand-père donc, du réalisateur est un collabo qui a un poste de fonctionnaire et qu'on va voir petit à petit gravir des échelons, mais aussi participer directement à la politique génocidaire, quoi. Donc c'est un film qui, tant sur le fond que sur la forme, nous a semblé absolument passionnant. C'est un geste de cinéma très fort. Il y a un travail sur la lumière, sur la musique, qui est absolument incroyable. Le réalisateur n'a pas eu peur des anachronismes. Donc il y a des choses qui vont retenir votre attention. Des scènes absolument inoubliables. Donc, on va soutenir ce film très fort avec tout le réseau des salles ARSC. Et bien sûr, au Pestel, vous pourrez le voir normalement à partir du mois d'octobre. Ouais.
Il y a le cinéma indépendant aussi. Je ne sais pas si on peut le
définir. C'est un peu la même chose.
Oui, en fait, parce que dans les années 60, c'est des auteurs, c'est des cinéastes américains qui ont amené peut-être une manière de filmer. Je pense à John Cassavetes, notamment, ou d'autres personnes qui utilisent différemment la manière de voir le monde.
Oui, en fait, si vous voulez, il y a trois époques depuis la création du cinéma, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, au tout début, donc 1895, ce qui était vraiment exceptionnel, c'était l'aspect prouesse technique. Donc, avec le tout début des projecteurs, les expériences, toutes les machines successives qui ont permis d'améliorer l'image, le son, etc. Donc, il y avait vraiment l'aspect très innovation technologique, quoi. Et ensuite, il y a une deuxième étape avec tout le burlesque qui a été notamment le cinéma vu comme du divertissement, mais aussi comme de l'information, parce qu'on pouvait filmer, notamment les Frères Lumière envoyaient des reporters dans le monde entier pour avoir des images des autres pays, et c'était des sortes de cartes postales animées qui étaient extrêmement appréciées par le public au début du XXe siècle. Et est venue seulement après l'histoire de caméra stylo, c'est-à-dire les auteurs cinéastes qui ont petit à petit utilisé des caméras comme des médiums artistiques, quoi. Et donc ça, c'est vraiment venu dans un troisième temps. Et en fait, moi, j'estime qu'aujourd'hui encore, en 2026, ces trois aspects du cinéma sont visibles. C'est-à-dire qu'on continue de voir des prouesses technologiques incroyables avec la 4DX, tous ces trucs de sièges qui bougent, etc. Et ça, c'est plein d'un grand public qui est friand de ça. Il y a encore l'aspect divertissement qu'on retrouve dans les multiplex, qu'on retrouve même dans toutes les salles de France, parce que plein de personnes attendent ça d'une salle de cinéma, hein, de pouvoir venir se divertir, rire, etc., passer du temps en famille. Et enfin, il y a ce que tu appelles le cinéma indépendant, le cinéma à réessai, le cinéma fait avec 3 francs 6 sous et qui va chercher à faire des gestes artistique qui s'éloigne un peu des autres cinémas, quoi, que je viens d'évoquer. Donc effectivement, nous, on est les libraires, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on va chercher à dénicher les films français, étrangers qui détonnent, qui amènent quelque chose au cinéma, qui vont effectivement permettre potentiellement d'apprendre des choses ou juste d'admirer une œuvre. Voire de se divertir, ça c'est aussi dans nos missions évidemment.
D'ailleurs, l'activité de projectionniste, c'est quand même aussi de montrer à un public un document, une création. Il y a beaucoup de règles à suivre.
Tout à fait. En fait, en tant que projectionniste, on fabrique ce qu'on appelle des playlists qui sont en fait un enchaînement de tout ce que vous voyez à l'écran. On ajoute aussi justement les lumières s'allument, les lumières s'éteignent, le bon format de l'image, le bon volume sonore. Ça, c'est un travail invisible, enfin, que vous ne voyez pas, mais qu'on fait quand le public n'est pas là. Donc on teste les films, on s'assure que tout fonctionne bien, on fait de la maintenance des équipements, on fait aussi tout un travail de gestion des films, ceux qui doivent arriver, ceux qui doivent partir, comment on se les procure, comment... tout ça fonctionne. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que la salle de cinéma, quand on la fréquente en tant que public, on voit la partie émerger. Mais en fait, l'iceberg est bien, bien profond. Il y a tout un travail souterrain qui n'est pas visible par le public, mais qui doit être fait et qui est colossal.
Chloé Guilhem, en tout cas, merci beaucoup d'être venue sur Air du Bois pour nous parler donc de l'actualité du cinéma avec justement cette participation au prix des cinémas ARS au Festival de Cannes 2026. En tout cas, je souhaite une bonne fin de journée.
Merci, à bientôt.
Revoir.
Au revoir.
Alors vous disiez, c'était un camion au bord de la mer. Oui c'est ça, une brume légère, partout répandue, elle traverse un plateau nu. C'est ça, oui c'est ça, il traverse le tout et la mer, on l'entend, le bruit de la mer, loin, fort, oui, terrible le vent, personne ne peut résister au vent. Qu'est-ce qu'elle dit la femme qui est montée, que le monde d'œil à sa perte, c'est la seule politique de la chapeur. Elle dit quoi encore la dame? Elle dit tout et dans tout, partout tout le temps en même temps. Partout tout le temps en même temps, c'est là devant nous sur l'écran. Oui, elle voulait mourir d'amour, elle est morte d'amour. Puis elle a vécu, elle a attendu 10, 20, 30, 100 ans, oui elle a vécu.
Écoutez, elle chante. Elle ferme les yeux et elle chante. Forêt panoramique. Au premier plan, flaque d'eau verglacée. Derrière, une forêt de bouleaux blanches de givre. À la fin du panoramique, une route, le camion, il longe la forêt, traverse l'écran, très lent.